Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, première édition avec vous Céline Landreau. Bonsoir Céline.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres du journal.
Surprise, dans l'église, le pape François accorde un sursis au cardinal Barbarin. Il refuse sa démission au nom de la présomption d'innocence, mais accepte sa mise en retrait. Un cas inédit. Des antispécistes au tribunal, quatre militants sont jugés cet après-midi à Lille pour avoir vandalisé et incendié des commerces de viande au nom de la cause animale. Plus de monde qu'en février pour battre le pavé, aujourd'hui à l'appel de la CGT de Force Ouvrière. Nouvelle manifestation pour défendre les services publics et le pouvoir d'achat. Et puis le pari de Florent Manaudou après 3 ans sur les terrains de handball. Le champion olympique va retrouver les bassins. Objectif Tokyo 2020. La bourse de Paris termine ce soir en légère hausse, plus 0,24%. Le CAC 40 s'établit à 5 425 points. Enfin les courses à Chantilly, il fallait jouer le 5, le 10, le 6, le 2 et le 11.
Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, des détenus enregistrés en train de soutenir Michaël Chiolot avant son attentat, vous savez, à la prison de Condé-sur-Sarthe, mais les écoutes en prison, comment ça marche et pourquoi n'ont-elles pas été analysées en direct. 18h25, direction les coulisses de l'actualité, bracelet électronique ou détention. La justice va trancher le 10 avril prochain sur l'application de la peine de Jérôme Cahuzac. En attendant, on va vous emmener en coulisses de la nouvelle vie de l'ancien ministre. 18h35, radicalisation, théorie du complot, fake news, haine ordinaire sur les réseaux sociaux, dans déchets de rationalité, le sociologue Gérald Bronner ausculte un monde devenu fou. Alors pourquoi sommes-nous impuissants face à ces dérives? Ses réponses tout à l'heure sur RTL. Bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir.
Un temps calme pour demain, mais avec quelques gelées matinales quand même.
L'amélioration se poursuit. Ce soir, nous avons encore quelques averses sur l'extrême sud-est et près des Pyrénées. Mais à partir de demain, on va retrouver un temps sec partout, après dissipation de quelques brouillards, notamment sur le nord-ouest du pays. Et puis le ciel restera un petit peu plus nuageux dans l'après-midi sur la Bretagne, la Normandie et sur les Hauts-de-France. Ailleurs, plein soleil, mais avec de la fraîcheur, une fraîcheur assez marquée encore demain matin. Moins 2 degrés à Reims et Mulhouse, moins 1 degré à Strasbourg. Et dans l'après-midi, on attend de 12 à 19 degrés, 12 à Cherbourg, 14 à Lille, 15 à Paris, jusqu'à 19 à Nîmes.
À tout à l'heure, Patricia Charbonnier.
RTL Soir.
Le gouvernement à l'heure des explications après les violences de samedi et l'acte 18 des Gilets jaunes, Céline.
Comment expliquer que les saccages des Champs-Elysées n'aient pu être empêchés? C'est ce que veulent comprendre aujourd'hui les oppositions politiques. Christophe Castaner a été hué à l'Assemblée nationale. Des élus de droite réclamant la démission du ministre de l'Intérieur. Son secrétaire d'État, Laurent Nunez, a lui réaffirmé la fermeté du gouvernement pour les prochaines mobilisations et promis des interpellations massives si nécessaire dès samedi. Les deux hommes qui s'expliquent maintenant avec Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, face aux sénateurs. Leur audition est en cours et dès le départ, Philippe Bas, le président de la Commission des lois, a mis en cause la gestion de la crise par le ministre de l'Intérieur.
18 semaines après le début de la mobilisation des gilets jaunes. Comment expliquer une telle situation, alors même que des signes d'une recrudescence de la violence avaient été perçus en amont par les services du renseignement territorial? C'est une question essentielle.
Sur les Champs-Élysées, samedi, il n'y avait plus de manifestants, il y avait des casseurs. Des casseurs prêts à tout, des casseurs prêts à tuer. Et je voulais qu'il soit clair que nous devions avoir aucune pudeur à rétablir l'ordre. Cette consigne n'a pas été exécutée convenablement. Des semaines d'un travail de sape sur l'usage des armes intermédiaires, des consignes inappropriées ont été passées qui ont découragé les forces de l'ordre de les employer. Face à des ultras qui ne pensent qu'à détruire la République, qui n'ont plus d'idées mais qu'une envie détruire, tuer, nous devons faire front. Dès qu'il y aura un attroupement, il sera dispersé.
Philippe Bas et Christophe Castaner, donc tout à l'heure au Sénat, propos recueillis par Olivier Bost pour RTL.
Le ministre de l'Intérieur qui assure donc que ses ordres n'ont pas été appliqués samedi dernier. Déclaration peu appréciée au sein de l'appareil policier, d'autant qu'elle s'accompagne de sanctions. Jean-Alphonse Richard, jamais on n'a vu une telle purge à la préfecture de police de Paris.
Absolument, on peut dire que la préfecture de police de Paris est décapitée et qu'elle n'a également plus de bras. Exit, le préfet de police Michel Delpuech et son directeur de cabinet Pierre Gaudin débarquaient également les patrons de deux directions stratégiques qui veillent sur l'ordre et la sécurité à Paris, la direction de la sécurité de proximité, la DESPAP avec Frédéric Dupuche, et la direction de l'ordre public et de la circulation, la DOPC, avec Alain Giblin. C'est inédit, toute la chaîne de commandement de la préfecture de police n'a plus de chef. Une chaîne qui aurait dysfonctionné, qui aurait manqué à sa mission samedi en n'appliquant pas correctement les consignes. Grande lessive qui suscite beaucoup de questions et même un début d'irritation chez les policiers. On estime que le ministre de l'Intérieur fait sauter des fusibles alors que lui-même, samedi, était présent dans la salle de commandement pour suivre les opérations. Un syndicaliste policier évoque un changement de tête inutile car il ne s'accompagne d'aucun moyen supplémentaire sur le terrain. Un officier fait part de ses doutes. Bref, la préfecture de police de Paris est ce soir en pleine interrogation.
Jean-Alphonse Richard, chef du service police-justice de RTL. Le gouvernement n'entend pas modifier l'âge minimal de départ à la retraite. La clarification est signée par Agnès Buzyn elle-même.
Oui, dimanche, lors du grand jury RTL Figaro LCI, la ministre de la Santé s'était en effet déclarée, à titre personnel, plutôt favorable à un allongement de la durée de travail. Elle a été sommée de s'expliquer aujourd'hui lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.
Aucune modification de l'âge minimal de, l'âge minimal de départ à la retraite n'est envisagée ni sur la table des négociations. Ce n'est pas non plus le sens des propos que j'ai tenus dimanche et dont les diverses interprétations sont à l'origine d'une polémique. J'ai toute confiance dans l'engagement du haut commissaire Jean-Paul Delevoye et je sais qu'il maintiendra un dialogue constant avec les partenaires sociaux pour mener à bien ces travaux.
Agnès Buzyn, donc à l'Assemblée nationale, l'interprétation de ses propos de dimanche ont en tout cas peut-être aidé à renforcer la mobilisation dans les cortèges. Aujourd'hui, selon le cabinet Occurrence, 17 500 personnes ont manifesté à Paris à l'appel de la CGT de Force Ouvrière, 50 000 selon les syndicats, plus nombreux donc qu'en février pour réclamer davantage de pouvoir d'achat et défendre les services publics. Sinamir, vous étiez pour RTL au milieu de la manifestation parisienne où des gilets jaunes avaient rejoint les rouges.
Oui, un jaune qui saute aux yeux, même s'il n'était que quelques centaines au milieu des grands ballons rouges et blancs des traditionnels camions syndicaux de sortie.
Salut gilet.
Claude, par exemple, son gilet jaune sur le dos, dit bonjour à tout le monde dans le cortège, elle qui, comme Serge, les avait boudés depuis plusieurs années.
Moi, je suis rouge, je suis jaune, je suis tout ce qui est en train de se battre. Les gilets sont apartisans, ils sont pas apolitiques. Nous, on est là pour dire qu'on est pour la convergence des luttes.
Voilà, on est en train de tous se retrouver. C'est aussi dans l'action qu'on apprend à mieux se connaître. Donc, le temps joue pour nous.
Pour la défense du service public, il y a 20% des facteurs et factrices de Hudson.
Un message bien entendu par les leaders syndicaux comme Philippe Martinez de la CGT qui avait choisi cette date du 19 mars en référence à la fin du grand débat.
Dans une telle situation, on ne peut pas être divisé. Ou alors c'est qu'on est nous aussi à côté de la plaque. Ce qu'il faut, c'est plus et mieux dans les entreprises. C'est-à-dire qu'il faut aller discuter avec tous ces salariés qui ne voient jamais de syndicat, dont bon nombre ont revêtu un gilet jaune.
Côté sécurité, aucun débordement constaté cet après-midi. Cette manifestation parisienne aura été très calme, trop peut-être, s'exclame un jeune manifestant, habitué lui à se mobiliser depuis des semaines le samedi.
Sinamir pour RTL, à 18h20, la réponse du patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, donc, qui sera le premier invité d'RTL soir.
Comme prévu, l'Assemblée nationale a approuvé aujourd'hui la suppression du numerus clausus et du concours couperet qui limite le nombre d'étudiants admis en deuxième année de médecine. Cette mesure phare du projet de loi santé doit permettre d'augmenter de 20% le nombre de médecins formés.
RTL soir, 18h09.
On marque une pause et dans un instant, le pape François refuse pour l'instant la démission du cardinal Barbarin. L'église elle-même est surprise.
RTL soir, 18h10, Marc-Olivier Fogel et pour la suite du journal, Céline Landreau.
Pas démissionné, mais en retrait. Le sort du cardinal Barbarin étonne les évêques français, Céline.
Oui, le pape François a décidé de s'en tenir à la présomption d'innocence. Il refuse donc la démission de l'archevêque de Lyon en attendant son procès en appel pour non-dénonciation d'abus sexuels. Mais le pape l'autorise quand même à se mettre en retrait de son diocèse. Une situation inédite qui surprend Marie Guerrier, la conférence des évêques de France.
Oui, parce que rien ne prévoit cette situation. Les évêques pensaient qu'il n'y avait que deux scénario possible. Soit le pape refusait la démission et maintenait Monseigneur Barbarin en poste, soit il acceptait la démission et lançait la procédure de remplacement du cardinal en nommant un administrateur apostolique. Là, on est dans un entre-deux que le droit canon, le droit de l'Église, ne prévoit pas. Monseigneur Barbarin prend du recul et confie la conduite du diocèse de Lyon au vicaire général modérateur, l'un de ses bras droits. Il reste l'archevêque en titre, mais il n'assure plus aucune de ses missions, et ce, dès aujourd'hui. La conférence des évêques de France salue cette décision de se mettre en retrait pour le bien du diocèse, mais s'interroge sur l'effet que tout ça peut avoir, notamment sur les victimes. Et puis en termes d'organisation, combien de temps va durer cette situation? Le calendrier judiciaire jouera forcément, puisque le pape François a souhaité respecter la présomption d'innocence jusqu'au procès en appel. Il n'a pas voulu paraître condamner le cardinal alors que la justice n'a pas encore tranché, analyse Monseigneur Pontier, le président de la Conférence des évêques de France, qui refuse de juger la décision papale. Mais pour François Deveau, de l'association de victimes La Parole Libérée, le pape a commis l'erreur de trop.
Marie Guerrier, spécialiste religion de RTL, le cardinal Barbarin qui s'apprête à donner une interview aux médias catholiques dans un instant. Vous l'entendrez tout à l'heure dans le journal de 19h. Ils sont soupçonnés d'avoir vandalisé une quinzaine de boucheries et de commerces de viande. Quatre militants antisepsistes sont aujourd'hui face à la justice à Lille.
Oui, des prévenus plutôt jeunes qui auraient dégradé et incendié les commerces au nom de la défense des animaux. Des actes qu'ils justifient aujourd'hui, Franck Hanson.
Oui, ce sont de frêles silhouettes qui s'expliquent ici à la barre, pas toujours à l'aise. Ces activistes sont convaincus du bien fondé de leur cause antispéciste qui dénonce toute exploitation animale. Il y a Mathilde, auxiliaire puéricultrice pro-vegan, qui partait en expédition avec la voiture de sa mère, ou Cyril, 23 ans, médiateur social maigrichon en chemise à carreaux, considéré comme le meneur. Il aurait jeté des fumigènes ou des pavés contre des commerces de viande ou tagué en lettres de sang. Comme sa jeune compagne, il assume en partie ses actes, mais minimise. On prenait des précautions, on ne s'attaquait pas aux personnes. Je pensais maîtriser le feu. Et face aux questions de la présidente qui rappelle le préjudice, ces artisans au chômage technique, les dérapages violents, ces militants de la cause animale expriment des regrets. Je changerais de voie si c'était à refaire, lâche un prévenu. J'achèterais des animaux destinés à être abattus ou j'ouvrirais un sanctuaire. Dans la salle, les représentants bouchers ont du mal à croire en la sincérité de ces excuses. Ce n'est pas rassurant pour la suite, glisse même leur avocat quand il entend un témoin venir déclarer que ces véganes sont au même rang que les antisexistes ou les antiracistes.
Franck Hanson à Lille pour RTL. Il a décidé de replonger. Florent Manaudou reprend la natation.
Après trois années passées loin des bassins pour jouer en handball, le champion olympique veut à nouveau décrocher l'or au JO de Tokyo l'an prochain. Paris ambitieux. Et pour réussir son comeback, Isabelle Langer, le nageur de 28 ans, ne veut rien laisser au hasard.
Florent Manaudou redeviendra nageur le 8 avril. C'est à Antalya, en Turquie, dans le club de l'Energie Standard, qu'il retrouvera James Gibson, l'entraîneur britannique qui l'avait mené au titre olympique à Londres en 2012. Il commencera par trois semaines de remise à niveau avant de revenir une semaine au Cercle des Nageurs à Marseille. Puis il repartira en Turquie pour trois semaines. Par la suite, le rythme des sessions devrait être de 15 jours à Antalya, 7 jours ailleurs. En Turquie, Florent Manaudou logera à l'hôtel qui jouxte le complexe sportif. Le but est d'être dans un cocon, loin des sollicitations. Il sait qu'il y aura du boulot et beaucoup de concurrence puisqu'il partagera notamment les lignes d'eau avec le Britannique Ben Proud, l'un des deux seuls nageurs au monde à avoir nagé plus vite que lui sur 50 mètres. S'il ne replonge pas avant, c'est que Florent Manaudou soigne encore une main douloureuse qu'il s'est fait opérer à deux reprises après un accident de moto en décembre dernier, puis en juin au tennis. Quant à sa première compétition, bien ce sera en octobre, un meeting organisé par la Ligue internationale de natation qui a été fondée par un milliardaire ukrainien, lequel est également propriétaire du club où il va s'entraîner à Antalya.
Isabelle Langer du service des sports de RTL.
Le tribunal arbitral du sport donne raison au Paris Saint-Germain dans ses démêlés sur le fair-play financier avec l'UEFA. Le club ne sera donc pas sanctionné pour le fol été 2017 et les plus de 400 millions d'euros dépensés pour s'offrir Neymar et Mbappé.
A tout à l'heure, Céline, vous revenez à 18h30.
À tout à l'heure.
Les clés pour bien comprendre l'actualité. L'auteur de l'attentat de la prison de Condé-sur-Sarthe, soutenu par des co-détenus avant son passage à l'acte, c'est ce qui révèle des conversations interceptées par le renseignement pénitentiaire. 5 personnes sont en garde à vue. Mais alors, ces écoutes en prison, comment ça marche et pourquoi n'ont-elles pas été analysées en direct, au Maputo?
Alors, le renseignement pénitentiaire dispose en fait de deux types d'écoutes. D'abord, les écoutes classiques, pourrait-on dire, celles qui sont captées, enregistrées et décortiquées à froid, ce qui prend environ 2 jours. Mmh. Ce sont les plus fréquentes. Elles sont ordonnées lorsqu'il y a un simple doute sur des détenus, par exemple sur la constitution d'une cellule radicale. C'est cela qui avait été mis en place à Condé-sur-Sarthe. Et puis, il y a les écoutes en direct, analysées en temps réel. Là, c'est toute une équipe qui est mobilisée avec des traducteurs et des spécialistes des codes utilisés par les prisonniers. Mais c'est autorisé uniquement en cas de soupçon d'attaque imminente, ce qui n'était pas le cas dans la prison de Condé.
Et le système va-t-il être amélioré, Thomas ?
Eh bien, en fait, il est en déploiement depuis 2 ans, depuis la création du renseignement pénitentiaire et des écoutes en prison dans le sillage des attentats de 2015. Il est donc perfectible, évidemment, mais c'est surtout l'inspection en cours après l'attaque de Condé-sur-Sarthe qui dira ce qui doit être corrigé.
Merci Thomas Proutot.
RTL soir 18h16.
Gilets jaunes, grand débat, manif pour le pouvoir d'achat. Premier invité d'RTL soir, le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux.